OK, nous sommes live. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans cette conférence avec Franck Athem sur la haute métaphysique, les amis, avec l'inventeur même de la haute métaphysique, notre ami Franck Athem. Ça va bien, Franck?
Ça va, merci beaucoup. Oui, oui, ça va très bien. J'espère que tout le monde va bien, tous ceux qui nous écoutent.
Ah ben, j'espère que oui. Et moi, ça va bien. L'été se continue ici au Québec. Il fait beau, il fait des 40, imaginez, il fait des 40.
Oh là là!
On n'a jamais vu ça au Québec, mais on en profite parce qu'on sait que l'hiver va être très, très froide. Et toi, Franck, tu es en Bretagne, hein? C'est ça, en Bretagne?
Oui.
C'est un peu plus...
En ce moment, on est en Bretagne. Mais il fait très beau aussi aujourd'hui, mais il fait beaucoup moins chaud quand même.
C'est ça, c'est une région qui est plus froide en France, la Bretagne.
Non, 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 c'est très tempéré. C'est très, très stable. Il n'y a pas beaucoup de différence entre l'été et l'hiver, en fait.
Ah ouais, ouais. Bon, ben en tout cas, nous ici au Québec, là, on est dans une région où c'est quand même assez froid habituellement, mais là, on est content, il fait chaud. Mais là, on va parler justement de la haute métaphysique, parce que là, les gens, il y a beaucoup de personnes sur le chat, ils veulent en savoir beaucoup plus sur la haute métaphysique, Franck. Alors aujourd'hui, on parle de la science des étoiles qui changera l'humanité. Alors, de quoi tu vas nous parler?
Ouais, c'est vrai que cette science des étoiles... Pourquoi des étoiles? Simplement parce que beaucoup de peuples attendent avec impatience qu'on les rattrape sur ce plan-là, qu'on comprenne un peu les choses un peu mieux que jusqu'à présent. Ils ont envie qu'on les rejoigne dans ce grand concert cosmique, dans cette confédération où chacun a sa place. Et il ne faut pas en avoir peur d'ailleurs, parce que la plupart de ces peuples des étoiles sont en avance spirituellement par rapport à nous. Et ils n'attendent qu'une chose, c'est qu'on puisse rentrer dans cette confrérie, dans cette confédération. Et ça dépend uniquement de nous, ça dépend uniquement de notre bon vouloir, de notre évolution spirituelle, de notre désir d'aller plus loin et d'être plus libre et d'être plus nous-mêmes et moins l'ego, moins ce que nous croyons être habituellement. Parce que c'est ça le problème. C'est ça qui les tracasse le plus, n'est-ce pas? C'est notre attitude les uns par rapport aux autres, évidemment, puisque l'absence de connaissance fait que c'est une absence de paix. Il n'y a pas assez de paix, il y a beaucoup de bagarres, beaucoup de conflits, beaucoup d'oppositions, et beaucoup de destruction de la planète, etc. Et ils en sont très, très tristes parce que, on l'a déjà dit l'autre jour, la planète est un lieu tout à fait exceptionnel. Je ne parle pas dans notre système solaire, bien sûr, mais bien au-delà de notre système solaire, c'est quand même une planète tout à fait remarquable où il y a une richesse étonnante, une richesse qui les étonne tous et qui... Tous ont envie de préserver, ils ont envie de la visiter aussi, ils ont envie de la connaître, et parfois d'essayer de la reproduire. Et donc, ils n'ont pas envie du tout qu'on continue de l'abîmer comme cela. Et depuis longtemps, ils essayent de nous inciter à ça, en faisant en sorte que des gens viennent sur la Terre pour enseigner un peu leur connaissance, qui est la base. C'est la base pourquoi ? C'est la base parce que de nos croyances et de nos... connaissance et de notre reconnaissance de nous-mêmes dépend notre comportement. Notre comportement les uns par rapport aux autres, évidemment, mais notre comportement vis-à-vis de la planète et vis-à-vis des autres peuples, évidemment. Et c'est pas facile du tout pour eux d'accepter et de supporter un peu nos attitudes qui sont trop destructrices, qui sont trop dangereuses même pour eux. Avec nos bombes atomiques, etc., ça les dérange énormément. Vous savez que les effets magnétiques des bombes atomiques, je crois que je fais du bruit là, les effets magnétiques des bombes atomiques se répandent au fin fond de l'univers. Et bon, maintenant, il n'y a plus d'essais atomiques quasiment, mais il y en a eu pendant longtemps, et ça les a beaucoup perturbés, n'est-ce pas? Parce que tout leur système de communication, tout leur système de déplacement, tout un tas de choses, repose sur l'énergie magnétique, évidemment. Et avec le magnétisme, avec des champs magnétiques puissants comme ça, on perturbe beaucoup de choses. Alors, ils ont toujours été à proximité pour essayer de voir ce qui se passe, d'anticiper, d'empêcher les choses d'aller trop loin. C'est ce qu'ils ont fait. Mais il faudrait que ça vienne de nous. Il faudrait que ça vienne de nous et que nous, humains, nous ayons un peu plus de conscience, un peu plus de connaissance de nous-mêmes, un peu plus de connaissance de ce que c'est que l'univers. Alors, des gens viennent de temps en temps pour exprimer ça, heureusement. Et maintenant, on le dit parce que maintenant, ça ne fait plus vraiment peur. Et même si ça fait peur, c'est pas grave parce que de toute façon, on va être obligé de le reconnaître et de l'admettre d'une façon totale et définitive dans un très proche avenir. Et donc, autant s'y attendre et reconnaître que finalement, nous sommes loin d'être seuls. Et évidemment, la vie est quelque chose de tout à fait banal, normal, répandu partout, ou quasiment, sous une forme ou sous une autre. Et toute cette vie est le même cheminement spirituel. Il n'y a qu'un seul cheminement spirituel pour tout l'univers. C'est le même pour tout le monde. Il n'y a pas des êtres qui vont dans un sens et d'autres qui vont dans un autre, même si, comme sur Terre d'ailleurs, il y a des gens qui vendent leur âme au diable, des gens qui ne veulent pas évoluer ou qui ne veulent pas, qui veulent jouer le rôle de leurs intérêts égotiques et posséder, avoir du pouvoir, etc., comme sur la Terre. Et cela, évidemment, on peut avoir l'impression que c'est tout autre chose, mais en réalité, c'est pas vrai. Un jour ou l'autre, ils se remettront en route dans la bonne direction, et un jour ou l'autre, ils iront dans la direction de cette évolution spirituelle. Bon, la plupart, ils sont déjà, n'est-ce pas? Il y a une très grande part de notre univers local, hein, pas de toute la galaxie, loin de là, mais au moins une bonne partie de notre univers local, les régions qui sont à peu près visibles à l'œil nu. Vous savez, il y a à peu près 9000 étoiles qui sont visibles à l'œil nu. Ce sont celles qui sont le moins éloignées. Et le reste, on ne voit pas. Et ce sont la plupart de ces étoiles, de ces régions de l'univers, sont déjà en cinquième dimension. Beaucoup sont déjà en cinquième dimension. Ils n'attendent qu'une chose, c'est qu'on y soit aussi, parce qu'on en est à deux doigts. On en est à deux doigts. Et ça dépend de quoi? Ça dépend de notre acceptation de ce que c'est que soi, acceptation de nous-mêmes, acceptation de ce que c'est que la vie, de ce que c'est que l'existence, ce que c'est que l'être, etc. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde sur la Terre qui raconte ça, qui explique ça. Le souci, c'est que le peu qu'il y a n'ont pas été beaucoup écoutés ces dernières décennies. Ces derniers siècles n'ont pas été beaucoup écoutés, mais ils sont de plus en plus écoutés, de plus en plus entendus, heureusement. Et bien entendu, un jour ou l'autre, le passage se fera. Il est inévitable. Évidemment, il se fera. Mais bon, plus on résiste, plus on souffre. On le sait bien, on l'a bien compris, ça, avec nos ateliers d'ontologie. Plus on refuse l'évolution naturelle de l'être et plus on se met dans la situation de souffrir et de faire souffrir les autres d'ailleurs. Et si on veut aller dans la bonne direction, bah, faut un peu s'ouvrir, un peu ouvrir l'ego, un peu ouvrir le mental. Et ça, c'est tout notre travail au niveau de cet enseignement de la haute métaphysique, c'est de passer du mental au supramental. Et plus on pourrait dire même, j'ai tendance à le dire maintenant, de l'inframental au supramental, le mental étant une frontière qui se déplace comme ça. Le principe de mental existe toujours, il a toujours existé, il existera toujours à tous les niveaux. Mais il y a une partie de une façon d'être, une façon de se comporter de ce mental qui consiste à se tourner vers le passé, se tourner vers les mémoires, se tourner vers la matière par conséquent, et se tourner vers la méconnaissance de soi. Regarder vers l'arrière, c'est rester dans l'ignorance, évidemment. Non pas que les anciens aient dit des bêtises, c'est pas ça que je veux dire, mais s'accrocher aux mémoires, s'accrocher à son passé, c'est s'accrocher à la matière et s'accrocher à l'ego, parce que l'ego, ce ne sont que des mémoires. Et l'ego, il est fait pour changer, il change tout le temps d'ailleurs, et on ne peut pas l'empêcher de changer, mais c'est à nous de faire en sorte d'aller dans le même sens, dans le sens de son évolution, et pas d'essayer de freiner et de retenir les choses. Et donc, accepter de se tourner non plus vers le passé, vers la matière, etc., mais vers le ciel, vers le haut, vers le but, vers ce qui nous est promis, vers notre destinée, vers notre futur, c'est une manifestation du supramental, évidemment. C'est l'un ou l'autre. On est tourné vers la matière ou on est tourné vers l'absolu, vers le but. Et cela dépend essentiellement de petits éléments qu'on peut donner à ce mental pour qu'il change d'attitude et qu'il cesse de voir les choses à l'envers. Quand on regarde vers l'arrière, on voit les choses à l'envers et c'est normal puisqu'on croit à la matière, on croit qu'on est plusieurs esprits, plusieurs personnes, plusieurs consciences ayant conscience d'un univers réel, objectif, matériel, etc. Unique, effectif, objectif. Et c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. Nous sommes une seule conscience, un seul être, qui a conscience d'une multitude d'univers personnels différents. Chacun d'entre nous vit un univers personnel totalement différent du voisin. Même s'il y a beaucoup de points communs entre ces univers, bien sûr, puisque les lois sont les mêmes pour tout le monde, les lois de l'esprit sont les mêmes pour tout le monde dans l'univers tout entier. On en vit une partie, on choisit un peu, on fait son marché un peu dans la conscience comme ça pour sélectionner, pour filtrer ce qu'on veut bien vivre, ce qu'on peut bien comprendre, ce qu'on veut bien être, etc. Mais les lois sont les mêmes et c'est pour ça que les univers personnels ont tous énormément de points communs et qu'on s'imagine à cause de ça qu'il y a un univers objectif. Mais bon, en réalité, il n'y a que l'esprit. Alors que pour la troisième dimension, pour le mental, l'inframental, si vous voulez, il y a avant tout la matière. Il n'y a même que la matière et la conscience aurait une émanation de la matière, une évolution de la matière au bout d'un moment, par des interactions entre atomes, je ne sais quoi, donnerait la conscience. C'est exactement l'inverse, évidemment, vous l'avez compris, puisque c'est la conscience qui est première, elle a une cause. Ce n'est pas parce qu'elle est première qu'elle est sa propre cause, hein, pas du tout. Il ne s'agit pas non plus de dire que c'est Dieu ou que Dieu a créé la conscience, etc. Ce n'est pas du tout notre propos, ça, ce n'est pas de la science. Ce n'est pas de la haute métaphysique. On a le droit de le penser tant qu'on n'a pas les clés, tant qu'on ne sait pas ce que c'est que la conscience, tant qu'on ne sait pas ce que c'est que l'être. Mais une fois qu'on sait, bon, on sait bien que cette conscience est éternelle et qu'elle ne peut pas ne pas l'être. C'est très important de le comprendre. D'ailleurs, ça fait partie des éléments essentiels pour changer l'humanité. On ne change pas l'humanité, une humanité qui a peur de la mort. On ne change pas une humanité qui ne croit pas à l'éternité de la conscience, c'est pas possible. Tant qu'elle est dans cet état-là, elle freine trop, elle a trop peur d'évoluer pour accepter les évidences premières dont elle a le plus grand besoin. Et donc, elle continue dans ses habitudes autodestructrices comme on les connaît. Non, c'est l'important, c'est de comprendre cela, de comprendre d'abord la matière, la matière aussi, évidemment, puisque la matière est dans la conscience, mais d'abord comprendre ce que c'est que la conscience, d'où elle vient, pourquoi, etc. C'est essentiel. Et il n'y a pas tant de peuples que cela dans notre univers local qui sont au courant, hein, faut pas croire. Il y a beaucoup de bêtises qui sont dites, pensées, crues dans d'autres civilisations, évidemment. On en reçoit d'ailleurs des informations parfois qui parfois sont même influencées par les terriens, influencées par la science terrienne. Mais tous les peuples du cosmos ne sont pas au courant de tout, loin de là. Mais il y en a qui sont au courant et qui savent très très bien le communiquer et qui le communiquent. Et on essaye d'en être les intermédiaires, on essaye d'en être, de permettre que cette connaissance puisse venir jusqu'à nous, puisque de toute façon c'est accessible à tout le monde. De toute façon, toute la connaissance est toujours accessible à tout le monde, parce que là où est la conscience, là est potentiellement toute la connaissance. Après, c'est une question de peur ou de non-peur, de désir ou de pas de désir, d'espérance ou pas. Mais ce n'est pas véritablement une question d'intelligence, une question de désir avant tout. Et donc, comprendre la conscience, c'est la base de la haute métaphysique, évidemment. Mais à partir du néant, à partir de rien, à partir du fait que il existe certaines certitudes inconditionnelles qui constituent un ensemble d'hyper-rationalité et qui permettent instantanément de comprendre pourquoi nous sommes là en tant que conscience. Et pourquoi en tant que conscience, nous créons notre univers personnel et notre corps au premier chef, la matière, etc., ce que nous croyons être de la matière, qui en fait est une des sensations de la conscience. Et c'est cette compréhension qui est essentielle, parce que c'est à partir de cela que on peut comprendre qu'on est un. Parce qu'il n'y a qu'une seule conscience. Nous ne sommes pas plusieurs esprits ayant conscience d'un univers, mais un seul esprit ayant conscience de plusieurs univers. Chacun est un univers, et chacun de ces univers est absolument indispensable à tous les autres. L'univers de Franck ne pourrait pas exister sans l'univers de Michel, et réciproquement, et de tous les autres aussi. Tous les gens qui nous écoutent, leur vie leur est propre, leur univers leur est propre, mais chacun de leurs univers est absolument nécessaire pour l'univers de tous les autres. Avec toutes ses limites, n'est-ce pas ? Parce que chacun de ces univers est évidemment limité. S'il n'était pas limité, ce ne serait pas un univers. Un univers, pour qu'il soit perçu, il faut qu'il ait des caractéristiques. Donc, certaines caractéristiques et pas toutes les caractéristiques. Parce que si on a toutes les caractéristiques, si on est infini, ce n'est pas la conscience, ce n'est pas l'esprit, ce n'est rien du tout, c'est le néant. Et cela n'est pas, parce que cet infini-là n'est pas et n'est jamais réalisé. Mais nous sommes toujours en train d'évoluer vers cela. Nous ne pouvons pas faire autrement que d'évoluer vers cela. On peut freiner, mais nous continuons d'évoluer. Et nous continuons d'évoluer en comprenant de mieux en mieux, évidemment, puisque le mental, en 4D, est l'outil essentiel pour passer de l'inframental au supramental. C'est bien évident. Alors, donc tout ça, c'est le principe, n'est-ce pas, général, qui justifie le fait que nous ayons, depuis un an, deux ans maintenant, exprimé sur la scène Le Grand Changement une bonne partie de cette connaissance pour justement permettre que cette évolution se fasse. Et on est loin d'avoir fini, au contraire, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à apprendre, et ça va être encore une grande fête de la connaissance, ça je vous le garantis, parce qu'on a devant nous déjà toute une année d'ateliers sur la haute métaphysique, et puis tous les autres ateliers sur le comportement, sur l'ontologie, sur la vie avec la connaissance sont toujours là, sont toujours disponibles. Donc c'est très important, c'est une richesse inestimable. C'est quelque chose dont les humains ont le plus grand besoin. Il faut qu'ils se l'approprient, il faut qu'ils le prennent dans leur cœur, qu'ils le comprennent, qu'ils l'intègrent, qu'ils deviennent cette connaissance, de façon que le fait que chacun a besoin des autres pour être, je ne peux pas être moi si l'autre n'est pas ce qu'il est, et que je ne peux pas regretter mon passé, regretter mes imperfections, parce que chacune de ces imperfections est indispensable pour constituer la perfection du grand tout. Toutes ces choses sont nécessaires pour que la paix s'installe. Et cette paix, elle s'installera d'autant mieux qu'on aura vraiment compris en profondeur vers quoi nous allons, quel est ce but et pourquoi nous allons vers ce but de façon inexorable. Et en quoi ce but est le créateur de notre corps, le créateur de l'impression de matière, le créateur de la conscience d'abord, bien sûr, et que sans cela, rien du tout, puisque c'est inévitable, c'est comme ça, ça peut pas être autrement. Ça peut pas être autrement, mais ça s'explique. Et c'est quand on l'explique, quand le mental l'a compris, qu'il lui fait confiance. Et cette fois, cette confiance est absolument nécessaire pour que la paix s'instaure. Si j'ai confiance dans le but, alors je suis en paix. Je suis en paix par rapport à mes mémoires, par rapport à mon passé, mais je suis aussi en paix par rapport aux univers des autres, et je suis en paix par rapport à mon devenir. Et je sais parfaitement comment organiser ma vie, comment chercher, savoir trouver ma mission, savoir quel rôle je peux jouer dans ce monde pour contribuer à la réalisation de ce grand tout. Et c'est le sens que chacun cherche dans son existence. Le sens existe, il est là, il est à portée de main, et c'est à chacun de le saisir quand c'est possible. Et c'est possible.
Ouais, en effet. Et je voulais surtout dire, Franck, que dans la haute métaphysique, moi, ce que j'ai aimé le plus au début, parce que ça fait quand même, je pense, 2 ans qu'on est ensemble.
Ça doit faire ça, oui.
Qu'on fait des conférences. Et tout de suite, moi, je faisais des recherches sur Internet, et puis j'étais tombé sur Franck. Et ce qui m'avait marqué, c'était surtout le fait que tu disais la haute métaphysique, c'est basé sur autre chose que des hypothèses, c'est basé sur des certitudes. Parce qu'en physique, eux se basent sur des hypothèses pour arriver à des théories, etc. Mais la haute métaphysique, elle se base en premier sur des certitudes. Et la première certitude, je me souviens dans ta conférence, c'était est-ce que une chose qui est sûre, c'est que nous sommes, c'est que tout ce qui se passe dans notre vie est dans notre conscience. Mais est-ce que c'est à l'extérieur de notre conscience? C'est ça qui est une hypothèse. Mais une chose qui est sûre, c'est que c'est à l'intérieur de notre conscience. Déjà, c'est un précepte là, qui est merveilleux. Là.
C'est une révolution essentielle.
Ben oui. Et moi, ce que je disais, c'est qu'à force de faire des conférences avec toi, je me suis dit, mais il devrait apprendre ça à l'école ou aux jeunes, tu sais, ça devrait être donné dans les écoles, ça devrait être donné partout. Parce que pourquoi continuer à se baser que sur des hypothèses? Il faut vraiment une science qui se base sur des certitudes aussi, là.
Mais ça vient. Ça vient à grands pas et évidemment, dans la dimension au-dessus, ça va de soi. Ça va de soi. Et on ne peut pas rester dans cette fuite mentale, cette peur mentale qui consiste à vouloir croire absolument à l'existence d'une objectivité extérieure à la conscience, alors que ça n'a pas de sens. Si c'est extérieur à la conscience, on n'en a pas conscience, point, final. Si on a conscience d'une chose, c'est évidemment qu'elle est dans notre conscience. Et cela justifie les grandes spiritualités dans l'humanité auxquelles l'humanité a donné naissance hein, depuis des millénaires. Il y a toujours des grands sages qui l'ont dit, tout est illusion, je suis et le tout, etc. Et c'est cela qui a besoin d'être démontré au mental pour qu'il ne fasse pas marche arrière et qu'il n'y en ait pas qui puisse dire « oui, ça c'est des religions » et puis d'un autre côté, il y a la science et la science c'est plus du solide parce que ça se repose sur du concret. Mais c'est justement faire les choses à l'envers. C'est s'imaginer qu'en étudiant la matière, on va comprendre l'être. On ne va pas trouver l'origine de l'être en étudiant la matière, puisque la matière est à l'intérieur de la conscience. C'est en étudiant la conscience qu'on va comprendre la matière. Donc on fait tout exactement à l'envers, mais c'est volontaire. C'est volontaire parce que, enfin c'est volontaire, inconsciemment volontaire, parce que l'être a peur de la connaissance. Et c'est pour ça qu'il faut le rassurer en lui montrant tous les intérêts, tous les avantages qu'il a à avoir les connaissances et qu'il n'y a pas de danger à avoir la connaissance, ce n'est pas du tout un problème. L'individu a peur de cette connaissance parce que il sait intuitivement déjà tout. Il le sait. Et il sait que, en tout cas, il sait que ça remet en cause l'ego. Et il veut surtout pas remettre en cause cet ego. Donc il va tout faire pour échapper et essayer de ne pas savoir ce qu'en fait il sait. C'est ainsi, il faut en tenir compte. Mais ça change, et ça change forcément. Alors, évidemment, on apprendra à l'école un jour. Pour l'instant, à l'école, on enseigne des choses qui sont fondées sur des hypothèses. Oui, la première hypothèse, c'est « j'étudie l'univers pour comprendre l'univers ». C'est une absurdité. C'est pas en étudiant l'univers que je vais comprendre l'univers, c'est pas possible. Parce que étudier l'univers, c'est déjà introduire l'hypothèse que l'univers existe. Et ne pas reconnaître et ne pas s'apercevoir que l'univers est un ensemble de sensations et donc de l'esprit. Donc si j'étudie l'univers, je vais dire c'est de la matière, je vais étudier la matière, je vais la casser, je vais essayer de provoquer, propulser des atomes les uns contre les autres pour voir ce qui sort. Etc. Je perds un temps fou, mais bon, c'est une étape nécessaire. Le matérialisme est une étape nécessaire pour l'humanité, mais il est temps d'en sortir. Nous sommes en train d'en sortir. Et puis, s'il y en a qui ne veulent pas en sortir, ils n'en sortiront pas maintenant, mais ils en sortiront un jour. Ceux qui n'en sortiront maintenant, pas maintenant, bon, ce sera plus difficile pour eux de passer le cap de cette cinquième dimension, ils ne le passeront pas. Et ben, il faudra qu'ils refassent d'autres expériences qu'ils ont déjà faites pour voir si cette fois-là, ils comprennent mieux. Et encore une fois, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est avant tout une question de courage et une question de désir de paix au lieu de désir de guerre, de désir de joie au lieu de désir de division, etc. Donc tout ça, ça vient Et il faut faire confiance de toute façon que ça vient. De toute façon, les gens qui nous écoutent, il n'y a pas besoin de les convaincre de ça. S'ils sont là, c'est justement parce qu'ils sont en route sur le bon chemin. Et tant mieux pour eux. Et s'ils peuvent susciter à d'autres l'envie de trouver cette paix-là, eh ben, tant mieux. Tant mieux, chacun peut contribuer à ça.
Ah oui. Et je voulais te dire aussi... Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on vit toutes sortes de choses vraiment spéciales dans notre ère, avec les pandémies, etc. Et la science, est, justement, il y a un problème avec la science, parce que là, tout le monde met ses œufs dans le même panier, tout le monde met ses œufs dans le panier de la science, la science mainstream. Et comme on sait, la science n'est pas parfaite aujourd'hui, tu sais, puisqu'elle se base que sur des hypothèses, et c'est un gros problème aujourd'hui. C'est pour ça qu'il devrait laisser beaucoup plus de place à la philosophie, à la haute métaphysique, à des gens qui pourraient arriver avec des nouvelles solutions, justement. Je trouve que c'est un des gros problèmes aujourd'hui là, qui, de tout mettre nos œufs dans le monde de la science. C'est quelque chose qui est dangereux même, des fois.
C'est un ensemble de croyances. Mais c'est avant tout un désir de pouvoir, et c'est exactement le même désir de pouvoir que ce qui a constitué les religions. Hein. Pendant plusieurs milliers d'années, les religions ont eu le pouvoir et voulaient garder ce pouvoir. Et puis, petit à petit, elles ont perdu une partie de ce pouvoir au profit de ce qu'on appelait la science. Mais c'est la même chose. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Croire au Big Bang ou croire à un Dieu qui, d'un seul coup, a créé, etc., c'est un peu la même chose. D'ailleurs, le pape Jean-Paul II disait ça aussi. Oui, ce qu'il y a, le Big Bang, on vous le laisse, et ce qu'il y a avant le Big Bang, c'est pour nous. Mais c'est pas comme ça qu'on avance. C'est pas comme ça qu'on avance vers la connaissance et vers des certitudes. Et tant qu'il y a doute, on est en danger. L'humanité est en danger. La planète est en danger, simplement à cause du doute. Et bien entendu, le doute est sacralisé, n'est-ce pas, dans les cours de philosophie. On vous dit, toi, le doute, c'est le doute scientifique, c'est le doute indispensable, le doute, c'est la base de la philosophie. S'il n'y a pas de doute, il n'y a pas de philosophie. Ben, c'est exactement le contraire. Tant qu'il y a doute, il y a des balbutiements de philosophie, mais le jour où il y a vraiment de la philosophie, il n'y a plus aucun doute. Et c'est pour ça qu'il arrive un moment où, lorsque tout cela est enseigné de façon absolument naturelle, immédiate, incontournable, eh bien, ça permet de s'occuper d'autre chose. Ça permet de commencer vraiment son fonctionnement social, et de commencer vraiment de créer des technologies pour le bien, et non pas des technologies pour le pouvoir, pour la guerre ou pour le mal, et de commencer à avoir des relations sur une planète où la paix règne de façon définitive, n'est-ce pas? Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. On va vers cela. C'est pas ennuyeux, hein. Faut pas croire que la paix éternelle est ennuyeuse. Hein. Personne n'est à la recherche de guerre, mais de fait, on fait tout pour ça parce que on freine, parce qu'on ne veut pas comprendre. Ben, ça va venir, ça vient de toute façon. Faisons-nous confiance. Faisons confiance dans cette connaissance qui nous est insufflée par notre futur, en vérité. Et là, je vais peut-être dire quelque chose que personne ne va comprendre d'emblée, ou tout le monde va être étonné, etc. Mais c'est notre futur qui nous visite. C'est pas dans l'espace. C'est pas l'espace extérieur. Il n'y a pas d'espace extérieur. C'est notre futur qui nous visite. On ne se déplace que dans le temps. On ne se déplace jamais dans l'espace. Se déplacer dans l'espace, c'est impossible, car il n'y a que la conscience et tout est dedans. Soi est cette conscience, c'est le point zéro. Et dans ce point zéro, il n'y a pas de déplacement. Le déplacement, c'est entre les différents niveaux vibratoires de cette conscience. Cette conscience contient tous les niveaux vibratoires qui sont le passé et le futur les uns des autres. Et c'est d'un niveau vibratoire à l'autre qu'on se déplace. Et lorsque je me déplace, que je crois me déplacer d'un point A à un point B, en réalité, je suis parti d'une conscience qui se limitait à un certain univers en A, et je me retrouve avec un autre univers que j'appelle B, et je crois qu'il y a eu un déplacement entre les deux, c'est pas vrai du tout. De même qu'il n'y a pas de déplacement de la vitesse de déplacement de la lumière, et toutes les théories sur la vitesse de la lumière, etc., sont des choses qui sont balayées ensuite dans les hautes sphères, évidemment, et il faut pas s'y accrocher. Il faut pas se dire « j'ai appris ça à l'école, donc c'est vrai ». Où j'ai un diplôme, donc je ne veux pas apprendre autre chose. Non, non, il faut s'habituer à tout cela. Vous comprendrez la vie lorsque vous aurez compris en même temps que on ne se déplace que dans le temps et jamais dans l'espace, et que toutes les informations que nous recevons, donc qui nous sont amenées de sphères plus élevées, sont en fait notre futur. Et c'est parce que notre futur a besoin de nous. Qu'il se sent responsable de notre propre évolution, n'est-ce pas ? Il se sent responsable de notre évolution, et il a raison d'ailleurs, comme un parent se sent responsable de l'évolution, d'éducation de ses enfants. C'est exactement la même chose. Alors, ils peuvent pas nous forcer, on peut pas tirer sur les poireaux pour les faire pousser, comme disait ma sœur. Et donc, ils sont obligés d'attendre, ils peuvent pas intervenir trop, parce que s'ils interviennent trop, ils nous bloquent, ils nous empêchent d'avancer. Alors, ils se contentent souvent d'être spectateurs. Ils vont pas non plus nous punir, ça servira à rien. Et de temps en temps, ils nous insufflent des petites choses pour que on aille un peu plus vite et qu'on ait un peu moins peur. Et c'est en ayant moins peur qu'on va un petit peu plus vite. Non pas en distance, mais en évolution. C'est-à-dire en niveau vibratoire, en fréquence vibratoire. Tout est question de fréquence vibratoire. L'espace et le temps, ce sont deux concepts qui sont, qui ne résistent pas à la prise de conscience de ce que c'est que soi. Même si le temps n'est pas le même statut que la conscience. On s'en expliquera. De toute façon, toutes ces choses-là, on en parlera dans nos ateliers. Hein. Nos ateliers ne pourront pas faire abstraction de ce genre de choses et d'en faire des certitudes. Et vous comprendrez que c'est cela la clé du voyage dans le temps, évidemment. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un nouveau bouquin là-dessus. Je sais pas quand il sortira, mais il y aura un bouquin spécialement là-dessus, sur le voyage dans le temps, parce que c'est quelque chose qui intrigue beaucoup, et c'est quelque chose qu'il faut accepter un jour, et comprendre, avant tout comprendre, parce que ça nous concerne directement, et bientôt ça va nous concerner beaucoup plus qu'on ne le croit. Et il y a beaucoup de gens qui font des témoignages par rapport à ça, qu'on a du mal à écouter parce qu'on n'a pas compris. Donc il faut comprendre ce processus de déplacement entre les fréquences vibratoires. C'est comme ça qu'on passe qu'on sort du mental, de l'inframental, et qu'on passe dans le supramental, évidemment. Dans le supramental, l'espace ne veut pas dire grand-chose. On est un seul être. On n'est pas un corps. Je ne suis pas Franck. L'être, c'est l'être. Il contient toutes les possibilités, toutes les potentialités. À moi, là où je me crois, de décider de me croire ailleurs. C'est ça, se déplacer.
Même en physique quantique, c'est ce qu'ils disent. C'est l'observation qui crée la matière. Tu sais, donc, on s'aperçoit que même en physique quantique, qu'on fait tout ça, parce que si on n'observe pas, si on n'est pas dans la conscience, rien n'existe, que des ondes. Il n'y a que des ondes. C'est dès qu'on observe que la matière commence à exister. C'est par l'observation, c'est par la conscience.
Oui, on est bien obligé de s'en rendre compte. On est bien obligé de s'en rendre compte, sauf que avec ces méthodes physiciennes, il est totalement impossible de comprendre ce que c'est que cet acte d'observation qui crée la matière.
C'est ça,
on ne peut ni comprendre d'où il vient cet acte d'observation, ni comment et pourquoi il crée la matière. C'est deux choses essentielles à comprendre. Mais on est les seuls, évidemment, à l'enseigner actuellement. On sera les seuls à enseigner sur la planète en ce moment. Bon, vous le savez, la plupart d'entre vous, vous l'avez déjà compris. Et nos ateliers, ils sont faits pour ça. Les entendre qui veut.
Vous allez voir les ateliers. Donc, je vais justement en parler, les ateliers. Si vous voulez participer aux ateliers qui vont commencer en septembre, on ne sait pas encore quel jour de septembre exactement. Mais,
écoute, je pense qu'on va essayer de garder le rythme qu'on avait. Ça va simplifier la vie à beaucoup de gens. C'est-à-dire le deuxième jeudi et le dernier jeudi de chaque mois à 19h, hein, c'est ça ? Ou à 20h,
c'est
un peu plus.
C'était 19h, c'est ça.
À 19h. Donc le deuxième et le dernier jeudi de chaque mois, je pense qu'on va arriver à garder ce rythme-là.
OK.
Il y a beaucoup d'obligations par ailleurs.
Alors, voilà, c'est ça, Franck, qui est un peu partout ces temps-ci. Alors, ce qu'on va faire, ça va probablement être le jeudi de la deuxième semaine de chaque mois et le jeudi de la dernière semaine de chaque mois. Sachez que ça fait déjà un an qu'on fait des ateliers. Alors, il y a déjà pour un an d'ateliers en replay dans le processus initiatique ATEM de compréhension globale, voilà le nom. Alors, il y a déjà un an, c'est-à-dire 30 ateliers, parce qu'on avait fait en plus 7 ateliers sur la mort dans le temps que la COVID avait commencé. Là. Donc, il y a 7 ateliers sur la mort, plus 22 ateliers sur l'ontologie.
Oui, l'ontologie, c'est...
C'est le niveau 2.
Oui, mais c'est le comportement. Alors, on a mis un peu la charrue avant les bœufs, mais c'était volontaire, parce que c'est un peu délicat de commencer par la haute abstraction. C'est un peu délicat. Il vaut mieux commencer en comprenant ce qui nous rend heureux, ce qui nous rend plus à même d'être en bonne relation avec notre univers. Et cela n'empêche pas qu'on a beaucoup évoqué l'autre métaphysique et la connaissance de soi et la connaissance de l'être. Mais l'ontologie s'est fondée sur la distinction entre moi et soi, c'est-à-dire entre la personne qui est pas du tout notre réalité, mais l'être que nous sommes en réalité, et qui pour des raisons, pour une multitude de raisons, se croit cette personne. Lorsqu'on a fait la différence entre les deux, lorsqu'on a distingué les deux, eh bien, le comportement change évidemment, puisqu'on l'amour peut commencer véritablement. Tout est une question d'amour, toute l'évolution spirituelle est une question d'amour. Cet amour a vocation à devenir inconditionnel, mais il ne devient pas inconditionnel du jour au lendemain, et on ne peut pas l'obliger. Pour y parvenir, il faut changer complètement sa conception de soi. Et donc l'ontologie, c'est un peu mettre l'eau à la bouche, en expliquant tout ce qui peut arriver de meilleur lorsque justement on distingue soi et moi. Alors, cette personne et qu'on la met au service du grand but, du grand tout et donc de l'humanité notamment, au lieu de vouloir que tout soit au service de cet ego et que ce soit cet ego qui ait le pouvoir et cet ego qui bénéficie de tout, etc., qui rend tout le monde malheureux, soit comme les autres. Donc c'est ça l'ontologie, c'est pas plus compliqué que ça. Le principe, c'est tout ça, c'est des grands mots, évidemment, haute métaphysique, inframental, supramental, tout ce que vous voulez. Tous ces mots-là font peur. Parce qu'on n'a pas. Mais c'est des mots nécessaires. C'est des mots nécessaires parce que ce sont des concepts précis qu'il faut garder précis. Le mental, il a vite fait de tout mélanger et de nous faire prendre des vessies pour des lanternes parce que justement, ça lui évite de se retrouver face à l'évidence. Mais lorsqu'on veut travailler vraiment spirituellement, il faut devenir précis au niveau des concepts. Donc des fois, il y a des concepts qu'il faut inventer parce qu'ils ne sont pas connus dans le mode de fonctionnement habituel. Donc, il y a des mots comme ça, des mots qui paraissent abstraits, et les gens disent « Ouh là là, c'est trop compliqué, c'est pas pour moi ». Si, au contraire, c'est pour vous parce que c'est extrêmement simple. C'est la simplification qui permet de discerner ces concepts et de les comprendre. C'est ce qu'on appelle la discrimination. C'est ce que Vivekananda appelait la discrimination. D'ailleurs, Viveka, en sanskrit, ça veut dire discriminant, discrimination. Donc, c'est ça l'essentiel. C'est d'arriver Bon, au début, ça peut faire peur, mais on arrive petit à petit à s'habituer à ça et de se dire, non, finalement, c'était le terme juste et il n'y a rien pour le remplacer, donc il vaut mieux utiliser ce terme-là. Et puis voilà. Il ne faut pas en avoir peur parce que c'est nouveau. Il ne faut jamais avoir peur du nouveau. C'est l'ego qui a peur du nouveau. Et c'est justement ce qu'on essaye d'apprendre, c'est de ne pas avoir peur du nouveau. Parce que notre futur, c'est toujours du nouveau. Et on est là pour y aller.
Effectivement. Je voulais dire aussi que dans la formation, il y a aussi les 3 ateliers du niveau 1 qui sont les bases de la métaphysique. Ça, c'est important aussi, les 3 premiers ateliers. Là.
Oui, c'est une façon de se mettre dans l'ambiance, disons, c'est de ça. Savoir de quoi on va parler.
Oui, ça, c'était très important, les 3 premiers ateliers. Donc, il y en a 33. Hein. Parce qu'il y avait 22 ateliers sur l'ontologie, 8 ateliers sur la mort, plus les 3 ateliers du niveau 1. Et là, maintenant, on s'en va vers le niveau 4. Alors là, dans le niveau 4, on va au plus profond des choses. dans l'atome, l'électron, là, Franck nous parle du magnétisme, etc. Donc là, ça va commencer à être très, 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 très intéressant. Et on commence au mois de septembre, le niveau 4, à parler vraiment du niveau 4, Franck.
Oui, mais aussi, c'est pareil. Électrons, tout ça, ça peut faire peur. Les gens vont dire, moi, je ne suis pas physicien, j'y connais rien, je n'ai pas été à l'école, etc. Je ne veux pas entendre parler de ça. Mais c'est le contraire. Ce n'est pas du tout rébarbatif lorsqu'on voit le côté vivant de ces choses-là. Ce qu'on appelle un électron, en fait, ce n'est pas des électrons. Les électrons, ça n'existe pas, les protons non plus. En tout cas, dans la conception qu'en ont les physiciens à l'heure actuelle, ce sont des particules. Et nous sommes obligés de fonctionner sous forme de particules. La conscience est un phénomène continu qui se vit de façon discontinue. Le contenu de la conscience est toujours discontinu et les particules atomiques sont une façon pour la conscience de limiter cette discontinuité à certaines valeurs pour ne pas faire une unité floue, un mélange, etc., qui finirait par se retrouver comme le néant. Qui finirait par faire que cette unité. C'est justement parce que ce néant n'est pas possible que la conscience fonctionne de façon discontinue avec l'impression qu'il y a des particules séparées les unes des autres et des planètes séparées les unes des autres. C'est exactement la même chose. Vous verrez qu'il n'y a aucune difficulté. Ça peut être difficile par moment, évidemment, il y a des choses auxquelles il faut réfléchir, mais c'est infiniment plus simple que la physique quantique, qui est totalement incompréhensible même pour ceux qui l'enseignent. C'est beaucoup plus simple que la relativité d'Einstein ou que la première des équations, n'est-ce pas? Jamais on n'aura besoin d'équations. En haute métaphysique, il y a une équation, et c'est tout. Il n'y en a pas deux, il n'y a pas besoin de deux. Si on médite bien cette équation et qu'on l'a bien comprise et qu'on l'a bien intégrée, mais c'est la porte ouverte à énormément de choses. Alors, cette équation, elle est simplissime. Il y a trois éléments, l'un égale l'autre et égale le troisième, mais ce n'est pas vrai dans l'autre sens. Et lorsqu'on a compris ça, eh bien, tout s'ouvre et c'est fabuleux. Et le mental est tout à fait capable de comprendre ça. Alors vous voyez, c'est pas parce qu'on n'a pas fait d'études ou parce qu'on n'est pas physicien, etc., qu'il faut s'imaginer que l'univers est quelque chose de compliqué. L'univers est la simplicité même. La difficulté consiste à être simple. Parce que le mental n'aime pas la simplicité. Il cherche la complexité. Parce que la complexité lui permet d'échapper à la vérité. Mais quand on veut la vérité, alors on doit chercher la simplicité. Et donc il faut faire un peu violence au mental qui va dire « Oh, ça me fait peur ». Bah oui, ça fait peur 5 minutes. Et puis une fois que ça ne fait plus peur, bah, tout s'ouvre, évidemment. Et la spiritualité s'ouvre. Et la réalisation s'ouvre. Et l'amour s'ouvre. Parce que tant qu'on reste dans l'ego, vous le savez bien, vous en avez fait l'expérience tous les jours, peut-être, tant qu'on reste dans l'ego, c'est très difficile l'amour. Ce n'est pas quelque chose qui va de soi. On fait ce qu'on peut. Mais l'ego n'est pas tellement doué pour l'amour. C'est l'être, c'est le soi qui est la source d'amour. Et c'est lui. C'est à lui que nous devons donner le pouvoir. Et c'est à son service que l'ego doit se mettre. Et non l'inverse. Qu'on essaye de faire habituellement. On fait tout à l'envers. La troisième dimension est à l'envers de la cinquième. Le supramental est à l'envers de l'inframental. C'est l'inverse. Et d'ailleurs, les alchimistes le disaient d'ailleurs au Moyen-Âge, hein, disait le monde métaphysique est exactement à l'inverse du monde physique, des apparences, de l'illusion. Évidemment, la vérité est à l'opposé de l'illusion. Ça surprend, évidemment, donc il faut être un peu audacieux, il faut avoir envie de changer ses habitudes, et alors à ce moment-là, tout se passe bien. On est content de découvrir des choses auxquelles le mental n'est pas habitué, et après il n'a plus peur du tout, plus peur du tout. Vous imaginez une vie sans peur ? On est toujours en train de dire comment vaincre la peur, comment renoncer à la peur, comment échapper à la peur. Ben c'est simple, il faut comprendre. Quand on a compris, on n'a plus peur. Et quand on n'a plus peur, l'amour commence. Et tant qu'il y a la peur, ben l'amour, il a difficile du mal à commencer, le pauvre. Ça ne se fait pas facilement. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas d'un côté passer son temps dans des séminaires ou des enseignements de spiritualité et puis en refuser les conditions. Non, non. Si on veut... vivre notre réalité pleinement, eh bien, ça suppose d'accepter de se voir en face, simplement. Simplement se voir en face.
C'est ça. Franck, j'ai une question qui est de Laetitia. Est-ce qu'on peut suivre le niveau 4 si on n'a pas fait les autres ateliers?
Oui. Oui, d'ailleurs, dans mes livres, en général, c'est dans ce sens-là que ça se fait. On part d'abord des bases de la compréhension de la conscience, etc. Et ensuite, seulement, on envoie les applications. Mais là, pour les ateliers, on a fait dans l'autre sens. Bon, les deux sont possibles.
Parce que le niveau 2, c'était l'ontologie, donc c'était quand même séparé du niveau 4. Là.
Oui, 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 c'est pas la même chose. Les principes sont les mêmes. Et puis, on y en a parlé beaucoup aussi. On a parlé du néant, on a parlé de l'infini, on a parlé de tout ça dans le niveau 2. Évidemment, il fallait bien justifier les choses. Mais on n'a pas été complètement au fond des choses, ni donné tous les détails, loin de là. Et le mental a besoin de ces détails. Parce que tant qu'il y a une zone d'ombre, il va s'engouffrer dedans pour se dire « Ah bah oui, mais peut-être bien que c'est pas comme ça parce qu'il y a une zone d'ombre, justement. » Et donc, il ne faut pas qu'il y ait de zone d'ombre. C'est très important.
Ouais. Alors, je vous remets l'adresse sur le chat, les amis. Donc, je viens de la mettre sur Facebook, sur YouTube. Et puis, sachez que l'adresse pour vous inscrire, elle est aussi sous la vidéo YouTube et sous la vidéo Facebook ou à côté sur Facebook. Sur Facebook, c'est toujours un peu dans tous les sens, là. Donc, regardez la description et vous allez trouver l'adresse pour vous inscrire. Mais je viens de la mettre sur le chat aussi. Hop, je peux aussi la mettre peut-être à l'écran pour ceux vraiment qui l'avaient
répondu. Bonne idée.
C'est legrandchangement.com/processus-initiative-athème-de-compréhension-globale.
Eh oui, tu aurais pu mettre une adresse un peu plus rapide. Hein. Tu aurais mis /athème, ça suffisait.
Hein. Mais bon, c'est le titre de la formation avec les ateliers et tout. Donc, c'est l'adresse pour vous inscrire. Alors, n'hésitez pas. Et donc, actuellement, il y a encore 25% de rabais. Alors profitez-en, le code de réduction est dans la page, alors faites comme vous voulez les amis. Donc Franck, là, on a des questions, mais avant les questions, je voulais juste te parler d'une petite chose, je voulais te parler de ça justement, c'est que tous les scientifiques aujourd'hui sont d'accord avec le fait qu'il y a de la vie dans l'univers. Il n'y a aucun scientifique aujourd'hui qui dit que la vie n'existe pas, c'est évident, il y a tellement de planètes, il y a tellement de soleils, il y a tellement de
ça.
Le système. Mais c'est le fait de communiquer avec tous ces êtres-là. Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui réussit à communiquer avec eux. Sauf moi, j'ai beaucoup de gens qui font du channeling, donc ils réussissent vraiment à... Ben, vraiment. Ils reçoivent des messages, tu sais, mais est-ce que c'est avec des
non, ça dépend.
Est-ce que c'est avec des intelligences invisibles? Tu sais,
c'est à double tranchant, ça. Le channeling, on ne sait pas toujours à qui on a affaire. Parce que ceux qui gouvernent la planète à l'heure actuelle sont très doués pour manipuler les gens qui reçoivent des messages, etc., et pour se faire passer pour les uns ou pour les autres. Hein. Ils peuvent se faire passer pour des Pléiadiens, ils peuvent se faire passer pour Jésus, ils peuvent se faire passer pour mettre ceci ou mettre cela. Bon, le channeling, c'est une chose, mais c'est à double tranchant. Maintenant, la communication entre ces êtres, elle n'est pas du tout difficile. C'est pas le jour où on décide de communiquer avec eux, on communique avec eux. D'ailleurs, nous avons tous en nous des capacités télépathiques, comme nous avons tous en nous des capacités de téléportation que nous expérimenterons. Mais la télépathie, nous l'expérimentons tous les jours avec les animaux, par exemple, ou avec les insectes, il suffit de s'entraîner à ça, ou avec les arbres, avec les fleurs, etc. Cette télépathie, elle fonctionne avant tout aussi avec les êtres du cosmos qui pour qui ça va de soi, n'est-ce pas? De même que pour la plupart des animaux sur la Terre, la télépathie est leur mode de fonctionnement habituel parce qu'ils ont un vocabulaire assez limité. Dans le cosmos, c'est la règle aussi. Donc la langue n'a pas d'importance à la limite. Il y a des langues, tout le monde a des langues, des orthographes, des façons de communiquer, etc. Et on peut toujours les apprendre et les utiliser. Mais en général, la télépathie suffit. Et la plupart des gens qui ont eu des contacts un peu rapprochés avec des gens d'ailleurs En témoigne d'ailleurs, c'est généralement par télépathie qu'ils communiquent et c'est immédiat, instantané, sans aucune difficulté. Si on veut le faire, on le fait. C'est une question de peur, encore une fois. C'est une question des limites qu'on se donne parce qu'on ne veut pas remettre en cause nos habitudes, nos croyances. Mais à force de refuser de les remettre en cause, ces croyances, il arrive un moment où on est obligé de les remettre en cause. Et à ce moment-là, ça peut être un peu douloureux. Donc il faut mieux accepter à l'avance de changer plutôt que d'attendre qu'on y soit obligé.
Ok. Donc j'ai une dernière question, Franck, pour la formation. Là. Je découvre et souhaite prolonger dans cet enseignement, mais si je m'inscris aux rencontres, je débute au niveau 4, point d'interrogation, faut-il que je m'inscrive plutôt au cours de niveau 1? Sachez que c'est tout dans le même niveau actuellement, c'est tout dans la même formation. Dès que vous prenez la formation, vous avez le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 4 qui va démarrer en septembre. C'est bien ça, Franck?
Oui. Oui, de toute façon, suivez en direct, suivez le niveau 4 en direct, c'est beaucoup mieux parce que vous pouvez poser vos questions directement, donc c'est plus agréable. Le reste est toujours accessible et toujours disponible, et il n'y a pas de difficulté à prendre les choses dans un sens ou dans un autre. Mais prenez le train pendant qu'il roule, c'est pas la peine de... De toute façon, les trois premiers niveaux, vous les recevrez, hein. Les trois premiers ateliers d'introduction, on les reçoit toujours.
Oui, ils sont en replay. Tout le niveau 2 est en replay, donc vous les écoutez quand vous voulez, n'importe quand. Donc tout est fait. Dès votre inscription, vous avez déjà 33 ateliers. Je ne suis pas sûr si c'est vraiment 33, là, de 2 heures et plus. Donc vous avez, c'est comme Netflix, vous avez des heures et des heures à écouter des lives.
Il y en avait qui vont crier au secours.
Ouais, c'est ça.
Jamais je pourrais écouter tout ça.
C'est parce que je vois des gens, des fois, qui écoutent Netflix, mais ils écoutent des séries complètes de 10 séries, 10 émissions, puis ensuite ils réécoutent 10 émissions, puis ils font ça en 2-3 jours. Ça fait que les gens aujourd'hui n'ont plus trop de misère à faire ça. Ici, j'ai Evelyne qui me dit concernant les livres, quel serait le premier à lire?
Demandez à votre intuition. Moi, j'aurais tendance à commencer par le premier, celui que j'ai écrit en premier, c'est-à-dire quand la réincarnation devient une certitude scientifique, effectivement.
C'est ça que Evelyne dit. Oui. Tu peux commencer par la sixième clé, la clé volontaire, ou quand la réincarnation devient une certitude scientifique.
La clé vibratoire, ouais, celui-là, oui, celui-là. Celui-là, c'est le premier que j'ai écrit. C'est une réédition, celle-là. Il y aura encore une réédition après. Mais celui-là, c'est le premier que j'ai écrit. Alors, j'en suis particulièrement content, quoi. Sentimentalement, c'est celui que je préfère. Et il résume bien tout, hein, de toute façon. Il vous aidera aussi pour suivre le niveau 4, hein, de toute façon.
OK. Ici, on a Anthony qui nous dit « Est-ce que Franck pourrait nous donner une équation à méditer ?»
Une équation, je vous ai dit qu'il n'y en avait qu'une de toute façon. Si vous voulez la méditer, rien ne vous en empêche, mais il faudrait mieux que je vous donne des explications. On ne va pas prendre le temps aujourd'hui de se donner ces explications, ce sera dans les ateliers. Méditer sur le chiffre 1, d'ailleurs dans le livre « Et l'univers fut », celui-là, il y a tout un chapitre sur la genèse des nombres, sur la signification symbolique des nombres, c'est très important. Mais méditez avant même de lire tout ça sur la signification du chiffre 1. Et je vous explique par exemple que dans ce livre que 1 plus 1 égale 2, ça ne veut rien dire. C'est vide de sens. Ce n'est vrai que dans la 3D, mais cosmiquement et métaphysiquement, ça n'a pas de sens. Pour faire 2, il faut faire 1 divisé par 2. C'est 1 divisé par 2 égale 2, mais pas 1 plus 1 égale 2. Parce que si vous rajoutez 1 à 1, ça veut dire que le 1 n'a pas de sens. Symboliquement, il n'a pas de signification. Puisque 1, c'est 1, il n'y en a qu'un. C'est seul, c'est unique. Donc méditez sur ce chiffre 1. Et ensuite, l'équation, c'est 1 égale infini. 1 égale infini égale 0. Alors, il va falloir méditer pourquoi 1 égale infini, et ensuite méditer pourquoi infini égale 0. Évidemment, on en parlera très largement dans les ateliers. Il n'y a pas de souci.
Ok, une question aussi. Si, a-t-on également accès au niveau 3? Non, non, le niveau 3 n'est pas dans les ateliers.
Non, c'est à part, ce n'est pas sous forme d'atelier. C'est sous forme différente. C'est vraiment de la pratique vibratoire. C'est important, la pratique vibratoire, justement, pour voyager dans les différents niveaux plutôt que de voyager dans l'espace.
OK. Ben, pour ceux là, qui voudraient avoir la description de tous les niveaux, je vous mets l'adresse dans le chat. Donc, ici, vous avez accès vraiment à tous les niveaux, mais sous forme là, de documentation. Et sous forme aussi d'audio, donc la documentation est aussi en audio. Je peux vous la mettre dans l'écran, justement, ici. Donc, c'est legrandchangement.com/le-projet-métaquantique.
Oui, c'est pas du tout le même tarif.
Oui, c'est ça, c'est pas le même tarif, c'est beaucoup plus cher. Mais s'il y a des gens qui veulent avoir le niveau 3, là, c'est vraiment intéressant aussi. Là. Maintenant, je vais passer aux questions, Franck.
Mais je t'en prie.
Déjà, de Chef 27 qui nous dit « On s'éloigne de la spiritualité, là, non ?»
Non, on la fonde. On lui donne des bases solides. Il ne faut pas croire que parce que c'est de la rationalité, de la haute rationalité, que ça maintient dans le mental. Au contraire, c'est pour en sortir. Et la spiritualité, c'est avant tout un comportement, c'est une attitude. C'est fondé sur le service, c'est de l'amour, et cela se développe grâce à la connaissance, justement. Sinon, faire de la spiritualité sans savoir quels sont les fondements, comme dit notre ami Mathieu, c'est comme Ronaldo, c'est le meilleur des footballeurs, mais s'il ne connaît pas les règles du jeu, bah, il va tirer contre son camp, etc. Et ça ne marchera pas forcément. Et la spiritualité, c'est comme ça. Tant que la spiritualité sans la connaissance, c'est plus long, plus aléatoire et parfois plus dangereux. Mais et avec la connaissance, ben, ça peut être plus rapide, plus sympathique et plus sûr. Maintenant, c'est de toute façon complémentaire. La spiritualité, c'est une pratique d'une métaphysique. S'il n'y a pas une métaphysique à mettre en pratique, qu'est-ce qu'on met en pratique? Mais ce n'est pas la même chose. La métaphysique, c'est des principes. La spiritualité, c'est une pratique. Donc, il faut les deux. Il faut les deux. Et tout ça n'a rien à voir, absolument rien à voir avec la religion. La religion, c'est théoriquement une spiritualité. Mais il y a longtemps que ça n'en est plus spécialement. Ça peut en être, ça peut continuer d'en être. Là, mais les religions, c'est plutôt des affaires de pouvoir, des affaires de dogme, etc. Pour simplifier, pour caricaturer, disons. Il est évident qu'il y a plein de gens qui tirent beaucoup de spiritualité de leur religion. Et c'est souhaitable. Et c'est possible. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et ce n'est pas toujours le cas parce qu'il manque, une métaphysique solide derrière pour savoir exactement ce qu'on fait et pourquoi.
Ok. Donc, il y a beaucoup de questions, mais moi, j'ai plus accès aux questions du début. Alors, si vous pouvez les remettre, sur le chat. Donc, ici, j'ai une question de Jeff qui dit « Bonsoir, M. Atem, mais d'où sortez-vous toutes ces informations? Vous avez fait des voyages astro. »
Non. Oui, j'en ai fait comme tout le monde. Tout le monde fait des voyages astro. Tout le monde fait des voyages astro, même sans le savoir. Mais ce n'est pas avec les voyages astro qu'on a beaucoup d'informations. On peut en avoir. Ça dépend. Mais bon, voyage astro, ça peut rester dans le bas astral et puis avoir toutes les imaginations qu'on veut et puis n'en tirer aucune connaissance. On peut être facilement manipulable avec les voyages astro. Maintenant, les informations, d'où viennent-elles? Elles viennent du soi. Le soi est partout. Et là où est la conscience, là est la connaissance. Maintenant, toute la question est de savoir quel filtre on utilise. et si on utilise plus ou moins de filtres. Et si on a plus ou moins accès à des mémoires. Parce que vous savez, des gens qui viennent de hautes sphères ou d'autres planètes, il y en a des tas. Il y en a des tas qui l'ignorent totalement et qui l'ignoreront toujours. Et puis d'autres qui le savent, d'autres qui en tiennent compte, d'autres qui ont compris des choses. Tout existe.
Ok.
Faites confiance à votre intuition. Si vous voulez étudier quelque chose, allez essayer de développer votre intuition pour savoir si c'est bon pour vous, si c'est juste. C'est un bon exercice.
Ok. Donc, de Hichem, j'ai une table de Ouija à la maison. Est-ce que vous classez ça dans la spiritualité?
Eh bien, merci Hichem pour cette question, parce que ça va me donner envie de savoir ce que c'est que Ouija. J'en entends parler régulièrement, mais je ne sais absolument pas de quoi il s'agit. Il faudrait que j'aille voir ça de plus près.
Mais c'est,
désolé.
C'est une table avec il y a des lettres sur la table, là, et les gens mettent leurs doigts sur un genre de dé, là, puis là, les gens se ferment les yeux et les doigts vont sur des lettres, et là, ça écrit des mots. Et les gens posent des questions, et là, les mots qui apparaissent, c'est des réponses à leurs questions. Donc, c'est ça une table de Ouija. Mm-hmm. Mais bon.
Oui. Tout outil matériel peut être bon comme il peut être mauvais. Ça dépend de l'usage qu'on en fait. Vous utilisez un pendule, ça a toutes les chances d'être bien, mais ça peut aussi ne pas être bien pour vous. Vous faites des exercices spirituels. Vous faites des voyages astro, ça peut être le meilleur comme le pire. Tout ce qui est technique, pourquoi pas.
Okay.
Après, faites vos expériences.
Chez Tau qui nous dit, c'est l'intuition qui guide le vrai, mais le moteur de tout ça, c'est la curiosité, si on n'est pas curieux de nature.
Oui, c'est vrai que c'est très important d'être curieux. Quel joli nom, Tot, ma foi. Je suis très honoré. L'intuition qui guide le vrai, oui. C'est pas que ça guide le vrai, c'est que ça permet d'aller. C'est deux choses qui vont ensemble. En développant son intuition, on peut aller plus vers le vrai. Et puis, en allant plus vers le vrai, on va développer son intuition, bien sûr. L'important, c'est de faire confiance à l'intuition. C'est comme ça qu'elle se développe. Et c'est vrai que si on veut connaître l'univers, etc., ça peut être de la curiosité, mais ce n'est pas par la curiosité qu'on avance le plus, c'est par le désir intense de paix, le désir intense d'amour, le désir intense de comprendre. La curiosité, c'est pas la même chose qu'avoir envie de comprendre. Moi, j'estime que ce n'est pas de la curiosité que de vouloir comprendre. C'est naturel de vouloir comprendre, mais la curiosité, c'est, j'ai envie d'aller voir mes vies antérieures pour le principe, parce que j'ai entendu dire qu'on avait des vies antérieures et j'aimerais bien savoir ce que je faisais à telle époque, etc. Bon, c'est de la curiosité, parce que ça ne sert pas forcément à grand-chose. Mais en tout cas, ça n'apporte pas de connaissances. Bon, il y a plein de choses comme ça.
Pratiquez-vous la méditation ?
Je peux dire que ça fait longtemps que je ne la médite plus, que je ne la pratique plus. J'en ai beaucoup fait à certaines époques. Mais bon, franchement, non. Mais c'est peut-être devenu une seconde nature, c'est peut-être devenu une évidence permanente dans la façon de vivre.
Ok. Qu'en est-il de l'inversion des pôles au niveau magnétique?
L'inversion des pôles, il faut savoir de quoi on parle. Et les géobiologues ne savent pas trop de quoi ils parlent, en fait. On n'est pas, comment dire, le noyau de la Terre, les pôles, les vrais pôles de la Terre sont au niveau du noyau. Ils ne sont pas au niveau de la surface, ou au niveau du magma. Vous avez d'énormes masses de magma entre le noyau et la surface qui est solide, qui se déplacent. Et ce déplacement, évidemment, a une influence magnétique sur les boussoles, sur tout ça. Même si, pendant ce même temps, le noyau lui-même n'a pas bougé. Pour inverser les pôles au niveau du noyau, il faudrait vraiment une action extrêmement puissante venant de l'extérieur. Je dis venant de l'extérieur parce que quand vous voulez inverser les pôles d'un aimant, il faut passer un autre aimant assez puissant à proximité, comme ça, et vous pouvez éventuellement inverser les pôles. Mais ce n'est pas le cas de la Terre. La Terre n'a pas dans son voisinage d'astres énormes qui vont passer à proximité pour l'inverser. Donc il y a peu de chances que les pôles s'inversent. Maintenant, les observations qu'on fait, c'est au niveau du magma. C'est au niveau de masses de magma qui se déplacent, qui peuvent s'accumuler à certains endroits et pas à d'autres, et qui peuvent faire qu'il y a des modifications. Et peut comme ça, avoir l'impression qu'il y a plusieurs pôles nord ou plusieurs. Donc, ça, c'est des modifications qui sont beaucoup plus légères, mais qui sont beaucoup plus possibles et qui peuvent être dues à des influences extérieures beaucoup moindres, beaucoup moins importantes. Enfin, je ne me tiens pas spécialement au courant de où en sont ces déplacements de masse. On verra bien si ça a des conséquences ou pas, mais bon, pour l'instant, le sentiment qu'il y a eu déjà beaucoup de déplacements et que le pôle Nord s'est beaucoup déplacé vers le Sud, les conséquences, pour l'instant, n'ont pas l'air extrêmement graves. Mais bon, peut-être ça le sera. Je ne peux pas vous dire grand-chose à ce niveau-là. Ce qui m'intéresse, c'est le noyau, l'épaule du noyau, la masse sphérique, ferreuse, qui constitue le cœur de la plupart des planètes, de toutes les planètes, pour ainsi dire.
Ok. De Narissa, qui nous demande, comment savoir si c'est le mental qui nous guide ou notre intuition? Merci.
Se relier à la Terre, c'est fondamental. Être le plus possible en harmonie avec la Terre. On est une antenne. Nous sommes une antenne entre la Terre et le ciel, qui sont deux symboles, hein, parce que le ciel n'est pas plus le ciel que la Terre. Une étoile dans le ciel, c'est une Terre pour un autre. Hein. C'est la même chose. Pour les autres, c'est nous le ciel. Mais nous sommes, symboliquement, nous sommes une antenne entre la Terre et le ciel. Et nous sommes là pour spiritualiser la Terre. Nous sommes là pour spiritualiser la Terre. Plus on aura les pieds ancrés dans la Terre, plus on sera en contact avec le ciel, plus on en recevra les informations en même temps qu'on lui sera utile. Et cet ancrage à la Terre, il dépend de nos humeurs, de nos émotions, parce que c'est beaucoup nos émotions qui nous éloignent de ce centrage. Et en particulier la peur, évidemment, le désir, l'avidité, la perte de contact avec soi-même. C'est ça qui fait qu'on va ne plus être dans... On ne pourra pas faire confiance à son intuition. Et donc c'est pas facile et il n'y a pas de recette de cuisine pour ça vraiment. C'est un travail de tous les jours, comme d'habitude, de connaissance de soi pour que les émotions ne prennent pas le dessus. Les émotions, c'est le niveau 3, hein, c'est l'ego, c'est notre côté animal, c'est pas lui qui doit avoir le pouvoir. S'il a le pouvoir, ce sera toujours notre mental qui nous guidera. Parce que ce niveau 3, l'ego, c'est le mental qu'il a pour le défendre. Donc il va vous donner les réponses ou les informations qu'il arrange pour satisfaire cet ego. Alors après, est-ce que développer une sincérité suffisante pour se rendre compte si on est dans l'ego ou si on est dans le service, bah, c'est à chacun de se prendre en main pour savoir ça, pour se rendre compte de ça. On a tous besoin de maîtriser ses émotions et de se mettre au service de ce qui nous est supérieur, de notre but et du grand but que nous contribuons à réaliser. Si on est toujours centré vers ce but, on est centré. Les E.T., les frères de l'espace, etc., nous disent tout le temps « Restez centré, restez centré, restez centré, c'est le plus important. » Dans la tourmente, dans les tempêtes qui sont là en ce moment et qui vont encore s'accentuer peut-être, il faut rester centré. Rester centré, c'est rester centré sur son but. Et c'est rester centré sur son but qui est aussi rester relié à la Terre. Ça peut paraître contradictoire, mais c'est comme ça. C'est-à-dire être bien une antenne avec bien les pieds sur Terre et bien connecté à notre but, et uniquement à notre but. Et c'est ça qui libère des émotions. Parce que les émotions, c'est justement quand on n'a pas de but, on n'a pas de sens à sa vie, on ne sait pas où on va, ni ce qu'on fait, ni ce qui nous dirige. Donc ce sont les émotions qui prennent le dessus. Et c'est aussi parce que on est coupé de la terre. Et on est coupé de, et plein de choses tentent de nous couper de la terre, c'est-à-dire de nous yiniser, de nous rendre plus yin. Les ondes électromagnétiques, le béton, l'agitation, les informations extérieures, les publicités, tout ce que vous voulez, tout ça nous décentre et nous fait perdre le contact avec la terre. Donc se protéger de tout ça, c'est fondamental. Avoir une bonne alimentation, yang, ce qui n'empêche pas de manger beaucoup de fruits, c'est ça qu'il faut. S'entretenir dans un comportement animal, par exemple en mangeant de la viande, des choses comme ça, ou du laitage, tout ça, ça nous décentre, c'est clair. C'est beaucoup plus difficile, évidemment, a fortiori, l'alcool, le tabac, tout ce que vous voulez. Toutes ces choses-là qui sont terriblement yin, et qui empêche d'être centré. Donc c'est un travail, c'est une discipline sur soi que d'arriver à ne pas être dans le mental et à développer son intuition. Rien n'est gratuit. Les gens qui sont très, très avancés dans ce domaine-là sont des gens qui ont beaucoup travaillé dans cette vie ou dans d'autres vies. Mais ceux qui voudraient avoir des résultats rapides sans travailler beaucoup et lentement et longuement et avec patience et courage, bah, ils n'arriveront pas à grand-chose puisque cela est entaché d'impatience. Et l'impatience, c'est le meilleur moyen d'être dans l'émotion et non pas dans le mental et non pas de pouvoir être relié à sa source et à son but. C'est la même chose. La source et le but, c'est la même chose. C'est le but qui est la source. Ça, s'il y en a qui n'ont pas compris ça pour l'instant à travers de mes conférences, vous comprendrez bientôt au contraire à l'occasion des ateliers, parce que c'est absolument fondamental.
Une autre question ici, comment aider nos morts dans l'au-delà? De Sophie.
À quel niveau sont-ils dans l'au-delà? Ça, est-ce qu'ils ont besoin qu'on les aide? Ça peut arriver, oui. Des gens qui se sont suicidés, il y en a beaucoup en ce moment. Des gens qui meurent dans des conditions, qui sont en colère, etc., parce qu'ils auraient pu y échapper alors qu'ils ont fait ce qu'il fallait pas faire. Il y en a beaucoup qui sont mécontents et pour les aider, c'est toute une technique qui s'apprend. Mais je ne vais pas vous donner un cours de ça. D'ailleurs, ce n'est pas ma spécialité. Je le fais peu. Mais j'ai autour de moi des gens qui le font très bien et qui le font régulièrement. Donc, d'une façon générale, superficielle, le meilleur moyen de les aider, c'est de ne pas les regretter. C'est de ne pas les retenir. C'est de ne pas les pleurer. Parce que si vous êtes malheureux de leur départ, vous pouvez être sûr qu'ils vont être, eux, très culpabilisés et qu'ils vont avoir beaucoup de mal à s'élever. Enfin, beaucoup, j'exagère un peu. On ne les empêchera pas au bout du compte. Mais le pire qu'on puisse faire pour eux, c'est de pleurer. C'est de ne pas être joyeux de leur départ. C'est-à-dire de ne pas comprendre que ce qui a été jusqu'à présent est forcément ce qui pouvait arriver de mieux. Et que si c'est comme ça, si ça s'est passé comme ça, c'est pas à nous de pleurer leur départ. Ils n'ont pas besoin de ça, pas du tout, du tout. On les aime. On peut manifester cet amour, mais à qui le manifeste-t-on, n'est-ce pas? Une fois qu'ils sont plus là, à la limite, ils n'ont plus besoin de nous. Ils ont leur travail à faire. Il faut les aider. On ne peut que les aider à faire ce travail. Donc,
okay.
La question est de savoir à ce moment-là si ils ont une demande ou pas. Et pour ça, il faut s'adresser à des gens qui peuvent le faire. Si vous pouvez le faire vous-même, au pendule ou autrement, vous pouvez essayer de savoir si vraiment on a besoin de vous. Mais a priori, pourquoi aurait-il besoin de nous?
Ok. Ici, j'ai de Christine qui dit « Comment faciliter notre connexion à notre soi divin, mettre mental de côté ?» Merci, Franck.
Eh bien, c'est ça, nous avons pour ça une trentaine d'ateliers dans le niveau 2. Je ne peux pas vous dire mieux.
C'est ça, l'enfant.
Tout tourne autour de ça. Et c'est un travail permanent qui demande. Et puis, il y a des exercices. Dans chacun des ateliers du niveau 2, il y a un exercice à chaque fois. Hein. Dans les 22 ateliers, vous avez un exercice. Si vous le pratiquez, je vous garantis que ça va vous transformer. Hein. Et donc, c'est ça. C'est tout le travail est là. Tout le travail est de la connexion au soi divin et de se dégager du mental. Mais ne vous attendez pas à ce que en trois phrases, je vous résolve tous ces problèmes. C'est quelque chose. C'est un travail. La spiritualité, c'est un travail de longue haleine. Même s'il y a des choses qu'il faut faire, ce que j'avais répondu précédemment au niveau de l'alimentation, il faut mettre tous les atouts de son côté, ça c'est clair, c'est-à-dire une certaine assaise, c'est vrai, mais après c'est l'intention qui est le plus important. Est-ce que c'est quoi pour moi être connecté à mon soi divin? Est-ce que c'est un problème de développement personnel? Est-ce que c'est un problème d'orgueil spirituel que de vouloir être connecté à mon soi divin? Ou est-ce que ce dont j'ai envie, c'est vraiment d'être utile pour faire diminuer la souffrance autour de moi, c'est-à-dire dans mon univers, et donc servir les autres? C'est quoi ma motivation? De ma motivation dépendront mes résultats. Vous pouvez en être certain. Donc, analysons nos intentions, soyons clairs avec ça, et à ce moment-là, il y a des réponses. Mais sinon, c'est prématuré, on ne peut pas savoir quoi dire.
Ok. De Rémi qui nous dit « Comment interprétez-vous la superposition d'état et le don d'ubiquité des particules ?»
Vous savez, personne n'a jamais isolé une particule. Personne n'a jamais vu un électron. Les hypothèses là-dessus sont légion, et c'est pas parce qu'on fait des expériences qui confirment ceci ou cela que ces choses sont des vérités. L'expérience n'est pas une preuve. C'est comme ça. Alors, le fait qu'une particule puisse être à droite et à gauche en même temps, ça veut simplement dire que c'est pas du tout une particule. Ça veut dire que simplement que la définition qu'on donne de la particule n'a pas de sens. Sinon, il n'y aurait pas d'ubiquité. Alors, on s'étonne après, il y a une ubiquité des particules. OK, mais c'est parce que la définition de la particule au départ était fausse. Et puis voilà, et c'est comme ça pour beaucoup de choses. Et la superposition d'état, bon, on peut voir ça comme des univers parallèles, mais qui peut vraiment se vanter de faire des expériences concluantes et authentiques de ce genre de choses, sinon par des calculs sur ordinateur et tirer des conclusions d'hypothèses qui reposent elles-mêmes sur d'autres hypothèses, etc. C'est pas ce genre de problème que nous nous posons. Nous cherchons les choses fondamentales.
Ok. De Amandine, que pensez-vous de cette lune bleue? Hier, c'était la pleine lune. Hier, elle était vraiment spéciale. Je l'ai remarqué moi aussi. Est-ce que tu l'as vu aussi, toi, hier?
Non. Non, non.
C'était vraiment spécial.
Je n'ai pas vu de lune hier, oui.
De Benjamin Franck, vous parlez souvent de la solitude de l'être unique comme finalité impossible à atteindre. Cela m'a fait penser à la femelle obscure qui précède l'univers dont parle Lao Tzu. Est-ce cela?
Ah, ça m'échappe dans Lao Tzu. La solitude de l'être, en tout cas, c'est pas la nuit noire de l'âme, hein, c'est pas la nuit noire qui est plutôt un passage. Non, la solitude, c'est simplement le fait que l'être est seul. Il n'y a qu'un seul être, une seule conscience, et on ne s'identifie jamais totalement à cette conscience unique. Donc cette solitude n'est jamais atteinte. Et de toute façon, il ne faut pas prendre solitude dans un sens péjoratif, où on serait seul, etc., et on manquerait de tout, ou de tout le monde. Non, non, on est en tant que personne, en tant qu'ego, on n'est jamais seul, et on le sera d'autant moins qu'on acceptera plus sa solitude en tant qu'être. Et la solitude en tant qu'être, c'est le fait qu'on est un, qu'on est tous un. Et c'est justement parce qu'on est tous un qu'on n'est pas seul. Vous êtes un avec tous les gens qui vous entourent, mais vous êtes un avec toute l'humanité, vous êtes un avec tous les animaux, avec toute la planète, avec tous les cosmos, tous les êtres de tous les univers. C'est ça la solitude de l'être. Il y a un seul être, mais s'identifier à cela est impossible. Et on tend toujours à s'identifier à cela. On peut pas. C'est un peu difficile de dire que la solitude est un idéal ou un absolu. C'est un absolu, évidemment, mais en tant qu'unicité, en tant que fait qu'il n'y a qu'un seul être, ça oui. Percevoir que tout est soi dans toutes les dimensions, pas seulement dans son univers personnel, parce qu'on a un univers personnel, mais les univers personnels, il y en a autant qu'on veut. Ressentir que tout cela est soi. Il y a des gens qui s'en rapprochent dans la méditation, dans des méditations profondes, évidemment. Mais c'est provisoire et c'est une méthode comme une autre. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut croire qu'être seul, etc. Parce que quand on parle de solitude, on pense à l'ego, d'abord. Donc ça fait peur, c'est normal.
Donc, il y a quelqu'un qui me demande le code de réduction. Je vais vous le mettre ici dans le chat. Donc, c'est Karma25, tout simplement. Je ne sais pas si ça va répondre à la question de la personne. Elle m'a dit de lui mettre dans le chat. Donc, Karma25, et puis ça permet d'avoir le code de réduction.
Oui, en tout cas, la femelle obscure, ça me parle de nouveau, d'ailleurs. Je suis de nouveau branché avec. C'est une façon de parler de la matrice qui est à l'origine de l'être, à l'origine de l'univers plus exactement, et qui reste un éternel mystère pour Lao Tzu, c'est-à-dire le processus qui fait que le Tao se subdivise en une dualité yin-yang qui engendre toute chose. C'est ça la femelle.
Ok. Donc Chantal qui nous dit, pourquoi est-ce un problème pour nos frères du futur que si nous n'évoluons pas, puisque la conscience a besoin de tous les possibles existants?
Dans l'absolu, ce n'est pas un problème. Dans l'absolu, ce n'est pas du tout un problème, il y aura toujours tout. Mais dans la relativité de chaque être, l'amour ne peut pas être indifférent à l'évolution de ses enfants. On pourrait dire, bien sûr, que quel que soit le destin de mes enfants, je m'en fous, c'est parfait, puisque de toute façon, tout sera toujours parfait. Évidemment, on peut se le dire, mais d'un point de vue concret, on ne se le dit pas. On ne se le dit pas parce qu'on a tous envie que nos enfants évoluent et deviennent grands et deviennent gentils et deviennent heureux, etc. C'est ça leur attitude.
OK. De Alain, dans quelle dimension nous trouvons-nous 2D?
Ça, j'ai beaucoup une question de convention, n'est-ce pas? On découpe l'évolution, les niveaux vibratoires en tranches, parce qu'il y a une différence quand même entre le fait d'être minéral, le fait d'être végétal, le fait d'être animal, etc. Il y a des différences qui sont assez nettes, même s'il y a des passerelles entre les deux. Donc, c'est ça qui me permet, en général, enfin moi en tout cas, c'est la définition que j'en donne de ces dimensions. La première dimension, ce serait plutôt physique et minérale, la deuxième, ce serait plutôt végétale et éthérique, donc la troisième, ce serait plutôt émotionnelle et animale. La quatrième, c'est un passage obligé de l'animal qui, quand il est humain, ça veut dire qu'il a un mental qu'il développe pour comprendre qui il est. Et à partir de là, la 5D commence, c'est-à-dire le causal, le moment où il s'estime responsable de ses croyances et non pas qu'il est une victime qui subit une réalité extérieure. Être responsable de ses croyances, c'est être responsable en fait des causes, en tout cas du mode de fonctionnement de notre univers personnel. On est créateur de notre univers. Et en avoir pleinement conscience n'est pas aussi facile que de se dire simplement « Oh, moi je suis créateur de mon univers, tout ça ». C'est plus puissant que ça. Et ça, c'est la 5D. Donc c'est également humain, mais c'est un état humain supérieur. Et ce n'est pas que humain, d'ailleurs, puisque à partir de là, il y a beaucoup d'autres formes qui sont possibles. Et il y a d'ailleurs d'autres espèces dans l'univers qui sont capables d'être dans la 5D, même s'ils n'ont pas du tout une apparence humaine. Et puis après, il y a d'autres dimensions, évidemment, mais c'est à l'infini les dimensions. Ce qui nous concerne, nous, c'est passer de la 3 à la 5, et ça, c'est le développement de la 4, c'est le passage obligé de la 4. C'est-à-dire la recherche, l'étude, la compréhension, la religion, tout un tas de choses, la philosophie, la science, tout ça c'est la 4D et c'est une étape indispensable qui ne dure pas longtemps mais qui permet de sortir du monde animal où on est complètement dans l'émotionnel pour rentrer dans un monde où on est complètement créateur de son destin.
Ok. De Stella qui nous dit « Le subconscient peut être plus développé que la conscience ?» Point d'interrogation.
Alors ça, c'est une question de définition. Dans les définitions que je donne, bien entendu, non. La conscience, c'est la conscience, et puis voilà, elle n'a pas à se développer d'ailleurs, c'est un processus qui est toujours le même, identique et qui ne varie pas. La conscience, c'est le fait d'être conscient, et cela est universel, tout est conscient. Maintenant, le contenu de la conscience change. Et ce contenu de la conscience, il est toujours perçu en tant que acquis, en tant que tout ce qui est mémoire, c'est le subconscient. Et puis, il y a tout le reste qui est ce que je n'ai pas encore acquis. Et l'univers que je perçois comme extérieur. Et tous les univers que je percevrai comme extérieur par la suite. Parce qu'il y en a une infinité potentielle. Et le subconscient, ce ne sont que des mémoires. Et ces mémoires peuvent être conscientes, peuvent redevenir conscientes. On peut tous puiser dans notre subconscient pour retrouver des mémoires. Mais on n'est pas obligé. Et ce n'est pas forcément nécessaire. Ça peut être utile. Donc, si on prend mes définitions, ben non, la conscience, d'abord, elle ne va pas être développée, elle ne va pas se développer, elle va simplement avoir un contenu de plus en plus riche, et c'est inévitable parce qu'on ne peut pas reculer en information. Les expériences que l'on fait, que fait la conscience, elle ne peut pas ne pas les avoir faites. Toutes sont là, et donc on grandit toujours en information, comme disent les physiciens, qui confondent l'information et la conscience. Mais l'information, elle grandit toujours. Donc, le subconscient est toujours très peu de choses par rapport au potentiel de la conscience. Maintenant, le conscient lui-même, il est très limité. Mais il est très limité parce qu'on ne vit qu'un seul univers à la fois. Mais cet univers qu'on vit à un moment donné, il dépend complètement des mémoires. Parce que ce sont les mémoires, donc le subconscient, qui filtre ce qu'on est capable de voir dans l'infinité de l'univers, dans l'infinité potentielle de l'être. Donc ce sont les mémoires qui définissent nos filtres. Et c'est cela qu'il faut maîtriser. C'est-à-dire qu'on est là pour faire en sorte que ce ne soit plus nos mémoires qui décident, mais que de plus en plus, on puisse soi-même créer son univers, en quelque sorte, maîtriser cet univers conscient et pouvoir, comme cela, voyager dans le temps, si vous voulez, pour revenir sur ce que je disais au début.
Ok. De Rémi Wolf. L'univers est-il né du néant?
C'est une question contre laquelle je m'insurge perpétuellement, puisque ça suppose que l'univers est né dans le passé. Or, la question ne se pose pas du tout. Il n'y a pas ce... C'est pas un reproche, hein. Tout le monde raisonne comme ça en général, mais c'est une erreur sur le plan métaphysique. Parce que la seule question qui se pose, c'est dans l'instant présent, je suis conscient. Dans l'instant présent, il y a la conscience. Donc la seule chose à laquelle je dois m'interroger, sur laquelle je dois m'interroger, c'est cette conscience présente. Et cette conscience, c'est la conscience d'un univers. Après, dire l'univers est né de ceci ou de cela, c'est une hypothèse qui ne repose sur rien. Il n'y a aucune raison de penser que l'univers a commencé hier, ou a commencé il y a 10 milliards d'années. Et par contre, ce qui est très, très juste et judicieux dans cette question, c'est le rapport au néant. Parce que, bon, vous le comprendrez si ce n'est fait, l'univers se crée et se recrée en totalité à chaque instant. Le principe créateur est là à chaque instant. Le principe créateur n'était pas à chaque instant, il n'y aurait pas d'univers. Il y aurait peut-être eu l'univers hier, on peut toujours le dire, mais il n'y aurait aucune raison qu'il y ait un univers maintenant si sa cause n'est pas présente. Or, dans l'instant présent, oui, évidemment, l'univers naît du néant, non pas qu'il y ait le néant puis l'univers, ça ne veut rien dire, il n'y a pas le néant d'abord et l'univers qui s'ensuit, mais il y a la nécessité du néant, dont on s'expliquera dans le niveau 4, qui est la cause qui exige et engendre le phénomène de conscience avec tous les univers qu'elle contient. Donc, il y a beaucoup de précautions à prendre dans ce genre de questions et on prendra toutes ces précautions. Et vous verrez que les choses sont parfaitement claires et que vous pourrez complètement répondre à toutes vos questions en vous disant « Ah oui, maintenant je comprends pourquoi ma question était mal posée. » Et je vous félicite de vous poser ce genre de questions. C'est avec des gens qui se posent ces questions que je travaille.
Ok. Alors, ça va être la dernière question parce que le temps avance. Ben, une des dernières. Mm-hmm. Donc, de Mike qui nous dit « Les émotions sont le langage de l'âme, non ?»
Je ne sais pas si c'est un langage. En tout cas, si c'est le langage de l'âme, moi j'interpréterais ça comme tel je me crois, tel je vais réagir émotionnellement. Donc on peut dire que c'est un langage de ce point de vue-là. Parce que j'ai une image de moi-même avec des attentes, avec des mémoires. Et les événements ou les situations qui se présentent, dont je suis totalement responsable en réalité, j'ignore que j'en suis le responsable et le créateur. Je ne peux pas être conscient du processus créateur, puisque c'est le processus créateur qui engendre la conscience, qui engendre le fait d'être conscient. Donc, pour la conscience, il est toujours trop tard pour se rendre compte qu'on crée des choses. Et donc le fait de ne pas se rendre compte qu'on crée les choses fait qu'on s'en croit victime. Et si ça correspond à l'ego, je dirais pas à l'homme parce que ça demande trop d'explications et trop de définitions. Il y a tellement de notions dans le mot de âme qu'on peut pas l'utiliser vraiment. Mais par rapport à l'ego, il y a des choses qui vont dans le sens des attentes de l'ego et d'autres qui vont pas dans le sens des attentes de l'ego. Et ça, c'est le mental qui le gère. Et donc, c'est le mental qui est le responsable pour un être humain de ses émotions et qui les module, ces émotions. C'est pas la même chose pour les animaux qui, eux, ont beaucoup moins un mental beaucoup moins développé et qui donc ne peuvent pas gérer ces émotions. C'est une spontanéité à peu près totale. Mais pour l'être humain, il n'y a pas une spontanéité totale. Il y a une gestion mentale des émotions qui est inévitable, qui fait que bon, un chien, quand il est content que vous rentrez à la maison, il vous saute partout, il vous lèche, il court après sa queue, etc. Et nous, on ne fait pas ça. Quand quelqu'un qu'on aime revient à la maison, on sait se tenir. C'est le mental qui nous dit comment on doit se comporter. On ne va pas sauter au cou, sauter partout et lécher partout. C'est pas le même comportement, donc c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais pour un être humain donc qui s'identifie à un ego qui est protégé, déterminé par un mental, les événements qui sont pas considérés comme nos créations vont soit dans le sens des attentes de l'ego, soit à l'encontre de ces attentes de l'ego. Et c'est cela qui provoque des colères, des joies, des peines, tout ce que vous voulez. Et justement, le fait de passer dans la cinquième dimension, c'est de se libérer de ça. De se libérer de ça parce que ce ne sont plus les émotions qui vont dicter nos comportements. Et en étant conscient que l'on crée les choses qui nous arrivent, que nous avons créé les choses qui nous arrivent, que nous en sommes pleinement responsables, et de comprendre pourquoi elles sont créées, pourquoi nous avons besoin de cela, eh bien à ce moment-là, les émotions n'ont plus du tout le même sens. C'est plus du tout le même genre d'émotion et la peur, comme l'avidité, etc., peuvent disparaître à peu près totalement. La colère, etc. Et donc, pour en revenir à cette question, je dirais, les émotions sont... dépendent complètement de notre gestion de l'ego. C'est un langage de l'ego plutôt. Tel est mon ego, telles seront mes émotions. Et en fonction de mes émotions, on peut savoir comment je gère cet ego. Mais cet ego, ce n'est pas moi. Donc quand je dis comment je gère cet ego, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que moi, je suis l'être qui est là pour qui crée cet ego et qui est là pour gérer cet ego, pour le mettre au service du tout, du but. Et non pas pour m'identifier à lui et vivre au premier degré tout ce qui lui arrive comme si c'était à moi que ça arrive. Voilà. C'est être spectateur largement de ce qui arrive à cet ego. Donc ça suppose que les émotions se retrouvent de fait largement maîtrisées. Voilà. J'espère que j'ai un peu répondu aux questions très intéressante d'ailleurs que tous nos auditeurs ont bien voulu nous poser. C'est toujours un plaisir de toute façon.
Oui, Franck, exactement. Ça fait donc 1h54. Je vais vous remettre, les amis, l'adresse pour ceux qui voudraient participer aux ateliers. Donc, je vous remets l'adresse dans le chat. Puis le code, là, c'est Karma25, ce que j'avais mis tout à l'heure, là, parce que j'avais une question. Donc, et voilà, c'est sur le chat. C'est en bas de la vidéo, c'est sur YouTube, c'est sur les côtés, sur Facebook. Donc, l'adresse est là. Et puis, je vous la remets dans le chat pour ceux qui la verraient pas. Donc, c'est legrandchangement.com/processus-initiatique-atem-de-compréhension-globale.
Tu n'as pas trouvé d'autre.
Alors, oui. On va se laisser là-dessus et puis on va avoir une prochaine conférence bientôt. On vous attend en grand nombre. On voit qu'il y a beaucoup de monde. J'espère que vous avez bien aimé. Franck, je te laisse le dernier mot.
Eh bien, écoute, ce sera pour rassurer ceux qui se disent « Ah, je ne vais plus avoir d'émotions, alors la vie va être triste, etc. » Mais pas du tout. Pas du tout, du tout. La maîtrise des émotions ne veut pas dire l'absence d'émotions et ça ne veut pas dire surtout l'absence de joie. Bien au contraire, la joie n'est pas à proprement parler de l'ordre de l'émotionnel. La joie, c'est l'état normal de l'être qui est en relation avec le but et qui s'identifie au but et non pas à son passé. Et à partir du moment où je sais que je suis un but et que j'ai confiance dans ce but, alors je suis en paix. C'est cela qu'on veut dire et c'est cela vers quoi nous allons tous. Bonne soirée en tout cas. Et merci. Et merci aussi à Michel.
Merci à tous. Merci à toi, Franck. On se revoit très bientôt.
Bye bye. Avec plaisir. Bye bye.
Bye bye.